Le Monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition du vendredi 22 janvier 2016. Au sommaire ce soir.
Burkina Faso, un dépôt d'armes et munitions de l'armée a été attaqué par d'anciens membres du régiment de sécurité présidentielle.
À trois jours de la publication des résultats définitifs des élections groupées en Centrafrique, une attaque est perpétrée contre le domicile de la présidente de l'Autorité nationale des élections.
Non loin de la concession de Hornaïer, ils ont d'abord tiré un coup de feu à l'arme automatique et ils ont lancé la grenade.
Suite de la visite du Conseil de sécurité au Burundi, la délégation rencontre le président Nkurunziza aujourd'hui.
Crise en Guinée-Bissau, le président promet des consultations avec les protagonistes.
Le chef de l'État considère très importante la création d'un meilleur climat de dialogue afin de sauvegarder une meilleure tranquillité sociale dans le pays.
Le tiers oriental des États-Unis se prépare pour une tempête de neige de proportions historiques.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Au Burkina Faso, l'attaque tôt ce matin d'un dépôt d'armes et munitions de l'armée près de Ouagadougou aurait été menée par d'anciens membres de l'ex-RSP, le régiment de sécurité présidentielle dissous. C'est ce qu'affirme un communiqué de l'armée, Bagassi Koura.
Selon l'armée burkinabé, la tentative d'incursion a eu lieu aux environs de 3 heures du matin. Elle n'aurait pas fait de victimes. Yimdi est un magasin d'armement situé à 20 km à l'ouest de Ouagadougou. L'armée précise que les auteurs de cette tentative ont été identifiés comme des éléments récalcitrants de l'ex-RSP. Le site est sous contrôle des forces armées nationales et le dispositif de surveillance a été renforcé, conclut le communiqué de l'armée. Selon une source militaire jointe par l'AFP, les assaillants ont pu ramasser des armes et des munitions et partir avec. Cette attaque survient alors que Ouagadougou a été la cible vendredi dernier d'une attaque djihadiste qui a fait 30 morts et que les forces de sécurité sont prioritairement mobilisées contre cette menace.
Rencontre cruciale au Burundi entre le président Pierre Nkurunziza et le Conseil de sécurité de l'ONU ce vendredi. La délégation onusienne s'est rendue à Gitega, à une centaine de kilomètres à l'est de la capitale burundaise. Nicolas Pinault, où en est-on ?
Eh bien, cette rencontre a débuté à 14h temps universel. Pour le moment, rien n'a filtré de ces discussions. Plus tôt ce vendredi, les 15 diplomates onusiens ont rencontré dans la matinée à Bujumbura le ministre des Affaires étrangères Alain Nyamitwe et le vice-président Gaston Sindimo, puis des représentants de la société civile dont les principaux acteurs, vous le savez, sont en exil. On rappelle que les représentants des 15 pays membres du Conseil de sécurité sont présents, dont l'américaine Samantha Power. Avant son départ depuis New York, cette dernière avait rappelé à VOA l'objectif de cette mission, que le gouvernement burundais accepte un dialogue avec l'opposition à l'extérieur du pays et permette le déploiement de cette force africaine de 5000 hommes. Alors que le pouvoir burundais persiste à affirmer que la paix règne au Burundi, les forces républicaines du Burundi ont revendiqué une série d'attaques contre la police cette nuit à travers Bujumbura. Et selon le porte-parole de la police, Pierre Nkurikiye, ces violences ont fait 3 morts, 2 criminels et un civil selon les termes de la police, 13 blessés, 8 grenades et 4 explosifs ont explosé.
Merci Nicolas Pinault. Jour J-3 avant les résultats définitifs des élections groupées en Centrafrique. La présidente de l'Autorité nationale des élections, Madame Koué Onarert, a victime d'une attaque à son domicile. Des hommes non identifiés à moto auraient jeté une grenade dans la concession. Les explications du porte-parole de l'ENE, Julius Ruffin Gwadé Mbaba.
C'est régulièrement que nous recevons des menaces. C'est ainsi donc que hier, à 21h très exactement, deux individus sur une motocyclette se sont arrêtés, non loin de la concession de Hornaïer, la présidente de l'ANE. Ils ont d'abord tiré un coup de feu à l'arme automatique et ils ont lancé la grenade. Mais la grenade a été retenue par la grille de sa concession et donc la grenade a explosé dehors, faisant des fissures sur le mur de sa clôture.
Cette attaque a-t-elle quelque chose à voir avec le résultat provisoire des élections groupées ?
Bien sûr, tout est lié aux élections. Madame Koué, quand elle n'était pas présidente de l'ANE, ni membre de l'ANE, n'a jamais reçu de menace. Tout est lié aux élections.
Julius Ruffin Gwadé Baba, porte-parole de l'ANE au micro de Pascaline Magali.
En Tunisie, un couvre-feu nocturne a été décrété sur l'ensemble du territoire. Depuis plusieurs jours, des manifestations parfois violentes ont atteint plusieurs villes du pays. Le point avec Idriss Fall.
La grogne sociale a débuté samedi à Kasserine lorsqu'un jeune chômeur, Rida Yahyaoui, est mort électrocuté en protestant contre son retrait d'une liste d'embauche de la fonction publique. À Sidi Bouzid, où fin 2010, l'immolation d'un jeune avait déclenché le printemps arabe, le gouvernorat est placé sous la protection de l'armée à cause des manifs. Ce mouvement s'est propagé comme une traînée de poudre. Dans le Grand Tunis, deux magasins et une banque ont été saccagés. Les heures avec les forces de l'ordre ont duré jusqu'à 5 heures du matin. Le couvre-feu est décrété de 19 heures à 4 heures temps universel. Le premier ministre Habib Essid a dû écourter sa tournée en Europe. Monsieur Essid doit réunir demain une cellule de crise. Il a affirmé que la situation est maîtrisée, mais a reconnu qu'il n'avait pas de baguette magique pour résoudre tous les problèmes d'emploi et tout de suite.
Crise en Guinée-Bissau, le chef de l'État, José Mario Vaz, promet d'initier des consultations avec les principales forces vives de la nation dans le but de trouver une solution entre les protagonistes. Reportage de notre correspondant Noua Mankali.
Après 5 jours de silence, le chef de l'État José Mario Vaz s'est finalement prononcé sur l'impasse politique à travers un communiqué de presse auquel nous avons eu accès. José Mario Vaz a promis de commencer des contacts avec les différentes forces vives de la nation afin de trouver une meilleure solution de sortie de crise. Le président José Mario Vaz a appelé aux acteurs politiques d'observer rigoureusement la constitution de la République pour la consolidation de l'État de droit. Noua Mankali, Bissau, VOA Afrique.
Bilan de l'attaque d'hier dans un restaurant du front de mer de Mogadiscio. Au moins 19 personnes ont été tuées, dont des femmes et des enfants, d'après les autorités. Les assaillants ont ouvert le feu sur les clients. Il y a également eu une explosion, un massacre revendiqué par les islamistes Chebab.
Incendie dans les réservoirs de pétrole de Ras Lanouf en Libye. Les pompiers tentaient pour un deuxième jour consécutif de circonscrire les flammes. Quatre réservoirs qui contiennent environ 2 millions de barils de brut sont en feu, a dit à l'AFP un responsable de la sécurité. Les réservoirs ont été ciblés par des roquettes du groupe djihadiste État islamique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Premier ministre français Manuel Valls a affirmé à la BBC que la France pouvait utiliser tous les moyens face au terrorisme jusqu'à ce qu'on puisse en finir avec le groupe État islamique. L'AFP souligne que pareille déclaration est interprétée par certains comme une volonté de maintenir l'état d'urgence pendant des années. Mardi, des experts des Nations Unies ont recommandé à la France de ne pas prolonger l'état d'urgence au-delà du 26 février, estimant qu'il imposait des restrictions excessives et disproportionnées aux libertés fondamentales.
Un Belge d'une trentaine d'années a été inculpé d'assassinat terroriste et de participation aux activités d'un groupe terroriste dans le cadre de l'enquête sur les attentats de Paris. C'est ce qu'a indiqué le parquet fédéral belge. C'est le 11e homme inculpé en Belgique dans le cadre de l'enquête sur les tueries du 13 novembre qui ont fait 130 morts dans la capitale française.
Le compte à rebours est lancé pour résoudre la crise migratoire, faute de quoi c'est tout l'édifice européen qui va s'effondrer, ont estimé plusieurs responsables réunis cette semaine au Forum économique de Davos en Suisse. La crise migratoire, une menace pour l'avenir du continent européen, c'est le cri d'alarme lancé par plus d'un lors de ce forum. Le ministre français de l'économie, Emmanuel Macron, avertit qu'il faut fournir des options communes dans quelques semaines. Le secteur privé s'inquiète également. L'Union européenne est en train de tomber en morceaux, a assuré le financier américain George Soros, une figure de la finance mondiale citée par les agences de presse.
La Turquie est en train de faire de son mieux pour endiguer la migration clandestine vers l'Europe, mais gardera sa politique de porte ouverte pour les réfugiés fuyant la guerre civile en Syrie. Déclaration faite aujourd'hui par le Premier ministre Ahmet Davutoğlu lors d'une conférence de presse à Berlin, après des entretiens avec la chancelière allemande Angela Merkel. L'agence Reuters rappelle que la Turquie héberge plus de 2 millions de Syriens.
A signaler aussi que Berlin et Ankara visent une suppression des visas Schengen pour les Turcs d'ici octobre, selon l'AFP. En Syrie, au moins 30 civils, dont 13 enfants, ont été tués par des raids dans l'est du pays. Des pourparlers entre l'opposition et le régime devraient commencer avant fin janvier à Genève, sous l'égide de l'ONU.
Ici aux États-Unis, la région de Washington DC s'attend à une tempête de neige dite historique dans la nuit de vendredi à samedi. Les habitants se sont rués dans les supermarchés. Le service de transport urbain sera à l'arrêt tout le week-end. La ville se prépare à affronter un blizzard presque sans précédent. Maëlys Segel.
On pourrait croire à la fin du monde. Washington DC n'est pas habitué aux tempêtes de neige. Mercredi, à peine 3 cm sont tombés, mais cela a causé 777 accidents et 392 véhicules en panne, rien qu'en Virginie, l'État situé à côté de la capitale. Et l'on prévoit jusqu'à 77 cm de neige pendant le week-end. Pour empêcher les gens de sortir de chez eux, le maire de la capitale fédérale, Muriel Bowser, a décidé de stopper tous les services de transport public de vendredi soir jusqu'à dimanche soir. Les habitants ont donc fait le plein d'eau, de pain, de sel et des produits de première nécessité comme pour se préparer à un long siège. Les bureaux fédéraux de la région de Washington fermeront tôt ce vendredi. Les écoles publiques ont annulé les cours. Plus de 5000 vols d'avions ont été annulés. La maire de la ville a déclaré l'état d'urgence et la garde nationale de Virginie a annoncé le déploiement de 300 soldats pour faire face à la situation.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Anastasie Tudiech.
L'exécutif nigérian se livrerait-il à une guerre ethnique ? Government Ekpemupolo, ancien chef de la rébellion armée du Delta du Niger, a été accusé de vol et de blanchiment d'argent pour un montant de 175 millions de dollars. Mais des représentants de l'ethnie Ijaw, à laquelle appartient M. Ekpemupolo, dénoncent l'acharnement du gouvernement sur certains profils ethniques et politiques sous couvert de lutte anticorruption. Avis de pénurie d'ananas, mangue, orange ou fruits de la passion. En cause, le dérèglement climatique, en partie dû au phénomène El Niño, qui bouleverse la production de fruits avec comme principale conséquence une pénurie de jus de fruits. Le Brésil, premier exportateur mondial de jus d'orange concentré, a d'ores et déjà prévenu cette semaine que sa production serait en baisse cette année en raison des fortes chaleurs. Chute des prix du pétrole pour le chef du bureau du développement économique de Bahreïn. La chute des recettes pétrolières est une bénédiction déguisée car elle fournit, je cite, « une chance pour les réformes ». Selon le ministre, la chute des revenus pétroliers qui représente le gros des recettes des États du Golfe peut avoir comme conséquence des réformes fiscales et un élargissement de la base économique de ces pays. Christine Lagarde est candidate à sa propre succession à la tête du FMI pour 5 années supplémentaires. Donc, elle avait pris les rênes de l'institution financière en 2011 après l'éviction de Dominique Strauss-Kahn.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Anastasie.
L'actualité sportive ce soir, c'est avec Eric Manirin qui a. Salut Eric.
Salut Gabi.
Alors foot, l'UEFA décide de ne pas remplacer Platini, jusqu'à la fin de son processus d'appel.
Exactement Gabi, le comité exécutif a décidé qu'il n'y aura pas d'élection présidentielle à l'UEFA avant que les juridictions sportives d'appel, y compris le tribunal arbitral du sport, n'auront pas pris de décision concernant la suspension de Michel Platini. En cas d'échec devant la FIFA, Gabi, restera ensuite à Platini la saisine du tribunal arbitral du sport TAS pour espérer être blanchi ou voir sa sanction de 8 ans réduite.
Adoption de la technologie sur la ligne de but pour l'Euro 2016.
C'est cette technologie qui permet, grâce à plusieurs caméras, à grande vitesse, de déterminer si un ballon a bien franchi la ligne de but. A déjà été adoptée depuis 2012 par la FIFA et a notamment été utilisée lors du Mondial 2014 au Brésil. Elle a aussi été mise en place dans 4 grands championnats européens, Allemagne, Angleterre, France et Italie. Elle sera également introduite en Ligue des Champions, Gabi, à partir de la saison prochaine dès les barrages. Le comité exécutif de l'UEFA menera par ailleurs une réflexion sur la faisabilité de la technologie sur la ligne de but en Europe. Ligue à partir de la saison 2016-17.
Alors Eric, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la 21e journée du championnat espagnol ?
Oui, c'est le retour au stade Benito Villamarín de Séville qui ravive de bons souvenirs pour Zinedine Zidane. C'est en décembre 1995 dans ce stade que l'ancien meneur de jeu a inscrit l'un des plus beaux buts de sa carrière. Un lob, Gabi, somptueux du gauche de plus de 40 mètres. Et Zidane, il va jouer en tant qu'entraîneur.
Alors, t'as vraiment bonne mémoire. Parle-nous maintenant de la Tropicale Amissa Bongo, 4e étape.
Oui, il s'est imposé en force hier lors de la 4e étape, comme vous le dites, de la Amissa Bongo.
Et qui est-ce qui s'est imposé ?
C'est l'Italien Andrea Pallini.
Ok. Alors, le Marocain Adil Jelloul.
Absolument. Et la NBA, Gabi, vous l'avez suivi.
Oui, en toute tranquillité. Cleveland, encore serein. Merci.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Ravi d'être en votre compagnie en ce vendredi où nous attendons la neige ici à Washington. Vous êtes prête, Morgane?
Je ne suis pas sûre.
On n'est pas sûre, moi non plus. Alors, place au dossier du jour. Première escale, le Burkina Faso.
Un dépôt d'armes et munitions de l'armée burkinabé près de Ouagadougou a été attaqué tôt ce matin. Selon un communiqué de l'armée, l'attaque aurait été menée par des membres du RSP, Régiment de Sécurité Présidentielle dissous. Disons que depuis vendredi dernier, jour des attentats à Ouagadougou, plusieurs plusieurs incendies non expliqués se sont déclarés dans des marchés publics à travers le pays. Pour mettre tout ça en contexte, Bagassikoura a joint Mourin Yamongbe, directeur de publication de Fasozine.
C'est vrai qu'il y a un incendie dans un quartier qu'on appelle Talgondin, dont l'origine serait pas criminelle, mais c'était une bêtise humaine. Il y a eu une série d'incendies comme ça, jusqu'à deux ou trois, et qui ont suivi. Et vraiment, on ne comprend rien, on ne sait pas si c'est une malédiction qui est en train de s'abattre sur le Burkina, ou alors si c'est des personnes malveillantes, une main invisible qui est derrière tout ça, et des gens qui essaient de soumettre le nouveau pouvoir, mais à des épreuves statistiques ingérable pour eux qui viennent de s'installer.
Il y a eu aussi cette attaque contre la poudrière. Qu'est-ce qu'on en sait à l'heure actuelle?
On n'en sait presque rien, sauf qu'il y a un communiqué de l'armée burkinabé justement qui dit que ça s'est passé et très tôt le matin, autour de 3 heures, et que ce sont des éléments de l'Est, régiment de la sécurité présidentielle, la garde prétorienne de Blaise Compaoré, l'ancien président du CHU, qui serait à l'origine de cette attaque. Moi, je trouve que c'est quand même assez gros que ces individus comme ça se lèvent et pensent qu'ils peuvent attaquer un dépôt d'armes aujourd'hui qui est très bien surveillé. C'est tellement impensable qu'on se demande s'ils sont réalistes. Ils ne peuvent pas s'attaquer sans rencontrer une résistance. Je crois bien que ça va être des entreprises de déstabilisation. Mais qui est derrière, effectivement, on ne sait pas trop.
Est-ce qu'on sait s'il y a eu des interpellations dans ce cadre-là?
Comme ça s'est passé dans la journée, nous avons eu au téléphone une source au niveau de la gendarmerie nationale qui n'a pas pu nous informer puisque ce qui a donné comme ce qui a été publié comme communiqué de l'armée nationale.
Comment les gens se sentent en ce moment au Burkina? Est-ce qu'il y a la peur et la psychose?
Ah oui, ça c'est sûr. Comme je le disais au tout début, il y a cet état de choc permanent et les gens, tout en prenant ça à la légère, en ironisant, ils disent que chaque vendredi, maintenant, il faut s'attendre à quelque chose parce que chacun se pose la question le vendredi prochain, qu'est-ce qu'on nous réserve encore?
Mourin Yamongbe, directeur de publication de Fasozine.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Au Cameroun, plusieurs journalistes ont comparu devant le tribunal militaire de Yaoundé ce vendredi dans le cadre de l'affaire dite de la rétention d'informations portant atteinte à la sûreté de l'État. Il s'agit de Félix Siriaka Ebolebola, ancien président du syndicat national des journalistes du Cameroun, Baba Wame, président de l'association des cyberjournalistes et Rodrigue Tongue, journaliste à Canal 2 International. L'affaire a été renvoyée au 19 février. Maître Pierre-Robert Faujou, avocat des accusés, explique pourquoi au micro de John Lyndon.
L'audience a été renvoyée uniquement parce que c'était une audience de pure forme, de mise en état de constitution d'avocat. Et l'audience a été renvoyée au 19 février pour que les parties puissent communiquer la liste de témoins et que nous puissions avoir en fait une copie de tout le dossier de procédure.
Qu'est-ce qu'on reproche concrètement à vos clients, ces journalistes, ces trois journalistes camerounais?
En fait, il y a une infraction dans le code pénal camerounais qui s'appelle la non-dénonciation des crimes envers la patrie. Et on reproche aux journalistes de n'avoir pas porté à l'attention des autorités publiques des informations qui, selon ces autorités, auraient, si elles avaient été mises à exécution, comportaient un risque pour la sécurité de l'État. En réalité, ce n'est pas ça. Les journalistes recherchaient uniquement à savoir si la source qu'on avait communiquée était crédible, si l'information était crédible, parce qu'ils avaient été sollicités pour publier un certain nombre d'éléments. Et n'ayant pas eu la possibilité de recouper auprès des forces de l'ordre les informations qui étaient à leur possession, naturellement, ils n'ont rien publié par professionnalisme. Et on leur reproche de n'avoir pas à la fois publié et à la fois de n'avoir pas averti les autorités alors qu'elles avaient saisi la police.
En clair, cet article ne devrait pas s'appliquer aux journalistes.
En principe, les journalistes sont là pour, en réalité, rechercher les sources des informations. Ils sont protégés par la loi camerounaise sur la liberté de communication sociale qui protège la source d'information du journaliste. Le journaliste, d'après cette loi, n'est pas tenu de divulguer sa source d'information. Si le journaliste est en possession d'une information, recherche à la recouper et n'obtient pas de suite, vous ne pouvez pas lui imposer de venir vous dire « j'ai reçu une information que je n'ai pas pu recouper et que je n'ai pas pu produire ».
Alors, le CPJ et le Comité pour la protection des journalistes et d'autres organisations ont demandé aux autorités camerounaises d'abandonner toutes les charges portées contre vos clients. Est-ce que cet appel sera entendu?
À l'heure qu'il est, nous sommes déjà passés à la phase de jugement. Les charges auraient dû être abandonnées par le juge d'instruction. Mais le juge d'instruction ayant estimé à son niveau que les charges étaient suffisantes, nous passons au débat. Et donc, c'est à l'audience publique probablement que nous serons écroulés toutes ces charges, parce qu'en réalité, la médiatisation n'arrange personne et nos clients sont innocents. Donc, nous allons le démontrer cette fois de manière urbi et orbi. Voilà.
Que risquent vos clients si jamais ils étaient condamnés?
Les peines sont lourdes. Les peines peuvent être des peines d'emprisonnement jusqu'à 5 ans de prison et ou une amende allant jusqu'à 3 millions de francs CFA.
Maître Pierre-Robert Faujou, joint à Yaoundé.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
Il y a en ce moment un sentiment de ras-le-bol en Tunisie et c'est dû aux promesses électorales restées vaines. C'est du moins l'avis de Saïda Rached, présidente de l'association tunisienne des fans démocrates, à l'heure où plusieurs villes du pays sont le théâtre de violentes manifestations. Elles sont parties d'un mouvement de contestation en début de semaine pour l'emploi et le logement. Les autorités ont décrété aujourd'hui un couvre-feu nocturne dans tout le pays. La situation est-elle maîtrisée, comme l'a affirmé depuis Paris ce vendredi le Premier ministre Habib Essaïd? Depuis notre bureau de New York, Jacques Aristide a fait le point avec Saïda Rached.
Ce n'est pas du tout le cas parce que les manifestations continuent. C'est vrai qu'il y aura un couvre-feu ce soir sur toutes les régions de la Tunisie, mais la situation reste quand même difficile. Puisque ça a commencé par un mouvement social, c'était des revendications sans violence qui a été commencé par des chômeurs, des diplômés de chômeurs, qui ont ras-le-bol d'attendre d'être recrutés. En plus, une manifestation contre la pauvreté, contre le chômage, contre les attentes qui durent pour améliorer, pour qu'il y ait une justice sociale et pour qu'il y ait une justice dans un développement dans les régions. Donc ça a commencé comme ça et il y a beaucoup de gens qui ont profité. Il doit y avoir des courants qui ont profité de ça pour discréditer ces mouvements sociaux légitimes dans les revendications sans au fait les slogans de la révolution, c'est-à-dire le droit à l'emploi, le droit à la dignité, le droit à une justice sociale et une justice entre les régions. Donc ça a commencé comme ça et bien sûr il y a un mécontentement et une oppression depuis quelque temps, depuis la révolution, parce que les gens sont en attente de voir venir les promesses électorales.
5 ans après la révolution qui a chassé Ben Ali, pourquoi la Tunisie peine-t-elle encore à relever la tête? Pourquoi l'économie va toujours mal? Le chômage est toujours présent? Il y a toujours des attentats meurtriers?
Parce que, en fin de compte, les partis au pouvoir Et les différents gouvernements n'ont pas su maîtriser la situation, ils n'ont pas su répondre aux exigences de la révolution et aux slogans de la révolution. Les gens demandaient le droit à l'emploi, à la santé, à la sécurité, à l'inégalité entre les régions. Mais rien ne vient parce que les choix économiques, les choix socio-économiques ne sont pas ceux de ces partis qui sont libéraux. Donc il n'y a pas une volonté réelle. Et en plus, il y a beaucoup d'incompétence, il y a beaucoup de corruption. Et c'est vrai qu'il y a un manque de moyens et qu'il y a beaucoup de, il y a plusieurs chantiers en même temps. Mais les gens avaient attendu qu'il y ait un peu d'espoir parce que les Tunisiens auraient attendu s'il y avait des prémices, des indices qui font que ça va dans ce sens. Mais personnellement, je pense que les choix socio-économiques ne sont pas dans le sens de satisfaire les droits socio-économiques exigés par les citoyens et pour lesquels a été faite la révolution.
Saïda Rached, présidente de l'Association tunisienne des femmes démocrates, était en ligne de Tunis.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
En Guinée, la vente des médicaments est exclusivement réservée aux pharmaciens. Une lutte est engagée depuis quelques semaines par les gendarmes guinéens contre la circulation des faux médicaments. De Conakry, la correspondance de Zakaria Camara.
Trois Guinéennes condamnées il y a quelques jours pour délit d'exercice illégal de la pharmacie à un an de prison par le tribunal de première instance de Mafanko. Ces dames avaient été interpellées par les agents de la gendarmerie guinéenne. Une lutte contre les faux médicaments qui trouve un soutien des Guinéens.
Vous avez mal à la tête, on vous dit de prendre des paracétamol et vous prenez de la farine. Est-ce que vous pouvez guérir avec ça?
C'est des poisons qu'on fabrique. Le dosage des produits ne sont pas connus par les vendeuses. Donc, laissez la tâche aux professionnels, aux pharmaciens.
C'est des personnes qui ne sont pas du tout expertes, qui sont en train de manipuler des poisons. Et du moment que le médicament, même s'il est surdosé, il est pris de façon inadéquate, ça peut poser du danger à l'organisme humain.
Danger contre lequel se dressent les hommes du secrétaire à la présidence chargé de la lutte contre la drogue et le crime organisé. Le colonel Moussa Tchibourou Camara n'entend pas baisser les bras.
Et tout faux médicament est lutté dans le cadre du crime organisé, est lutté dans le cadre de la drogue, parce que tout faux médicament est une drogue, au vu de la loi. Donc la mission continue de belle. Tu vas beau faire, il y a les gens qui pensent que tu es en train de lutter contre leur bien, alors que ce bien-là est en train de soit tuer la population. Les temps ont changé, il faut rester dans, et oublier le passé, faisons face à l'objectif et à l'avenir pour que l'objectif assigné par le président de la République pour santé pour tous soit vraiment un objectif réalisable.
Cette campagne de lutte contre les faux médicaments est menée en collaboration avec l'Ordre national des pharmaciens dont les membres saluent l'initiative.
La vente illicite des produits pharmaceutiques commence à prendre une ampleur très inquiétante. Les produits pharmaceutiques ne doivent pas être à l'apanage de tout le monde. C'est seulement les pharmaciens qui sont habilités à vendre les produits pharmaceutiques.
Il faudrait que les gens chassent. Pourquoi cette lutte est menée? Ce n'est pas seulement dans l'intérêt du personnel de la santé, mais c'est aussi dans l'intérêt de la population.
Le colonel Tchibourou a lancé une autre lutte, celle contre les cliniques clandestines. Conakry, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
Salut les amis, Roger Muntou, La Voix de l'Amérique. Restez branchés chaque vendredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique des Caraïbes. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Joselle Morissin. Présentation, Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil.
À la console, on a commencé avec Rachad et on termine avec Nelson. Thank you guys. Ainsi va le monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook et sur notre site internet, VOA. voafrique.com. Alors, partagez vos impressions, envoyez vos photos, posez des questions, partagez vos vidéos. On reste ensemble 24 heures sur 24 pour plus d'infos sur voafrique.com.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayegouya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.